Libre-échange aujourd'hui, en ce jeudi, c'est une chronique politique, mais une revue de presse qu'on va faire de la dernière année, les sujets qui ont été les plus importants qu'on va discuter avec Gaétan Lelièvre qui est avec nous. Bonjour Gaétan.
Bonjour tout le monde. Bonjour Richard.
Donc, l'année 2019, un des sujets qui a été marquant durant l'actualité, évidemment, c'est toute la question des baleines noires et évidemment les plans de sécurité, mesures de protection des baleines noires qui ont été mises de l'avant par le gouvernement fédéral, qui ont fait jaser d'année en année depuis 3 ans. Alors ça, c'est un élément qu'on ne pouvait pas passer sous silence, évidemment.
Oui, un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 2 ans. Ça a été une entrée en scène ratée de pêche océan en 2018. Souvenons-nous qu'en plus des mesures en haute mer, on avait même imposé des mesures, des restrictions concernant la pêche aux homards. Donc, il y avait certains homardiers du secteur qui avaient dû déménager de zone et pratiquement interrompre leur activité pendant un certain nombre de semaines. Donc, après ça, il y a eu un revirement, un ajustement de la part de pêche océan en regard des normes. Mais on peut dire que ce dossier-là a fait plusieurs ratés. Hein. On a parlé de zones statiques, zones dynamiques. Ouais. On a créé pratiquement un
quadrilatère, là.
Oui, un quadrilatère qui était quasiment un piège à baleines. En voulant protéger les baleines, ça a eu un effet pervers. Donc, c'est un dossier où on sent que le MPO improvise un peu, pas beaucoup à l'écoute des pêcheurs, pas beaucoup à l'écoute, sinon pas du tout à l'écoute de l'industrie des croisières, parce qu'on parle des impacts sur la pêche, mais on peut parler des impacts aussi sur les croisières. On parle d'une quarantaine de navires dans les deux ou trois dernières années qui ont été détournés de Gaspé. On parle de 5 millions de pertes par année en revenus.
50% de la clientèle perdue depuis
40 à 50 000 visiteurs, exactement. Donc, un dossier à suivre aussi parce que c'est pas fini. Le pêche océan doit sortir ses nouvelles dispositions pour protéger les baleines noires pour la prochaine saison. Donc, on est en attente de ça. On verra si les normes vont être plus adaptées à la réalité du milieu en respectant l'économie locale et régionale, tout en protégeant les baleines, bien sûr. Tout le monde est d'accord pour les protéger, mais c'est le faire de façon intelligente et non pas de façon improvisée, comme malheureusement ça a été le cas un peu, beaucoup, depuis 2018.
Oui, parce qu'en 2018, on avait les zones statiques et dynamiques. On s'entend, statique, c'est fermé à l'année. Dynamique, c'est s'il y a des baleines qu'on aperçoit, bon, on les ferme à mesure. Et donc, il n'y a pas eu de baleines décédées en 2018. 2019, on réapplique le même plan. Alors, on met une zone statique. En partant cette zone statique-là, les baleines n'étaient pas là. Elles se retrouvaient dans les zones dynamiques. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a fermé presque toute la zone dans la zone du Golfe. Et en plus de ça, même si tout était fermé pratiquement, il y a eu des décès de baleines. Alors là, c'est ce qui nous laisse présager. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer dans cette prochaine mouture de plans de protection à cause de ça aussi.
Effectivement, mais il y a un consensus tant au niveau des pêcheurs que de l'industrie des croisières, c'est qu'on devrait suivre le déplacement des baleines et ajuster, adapter les zones hein, de non-pénétration là, au niveau des activités soit de pêche ou soit des croisières internationales en fonction de l'évolution du cheptel de baleines. Ce serait ce qui serait l'idéal. Aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques, on peut arriver à avoir une approche dynamique et efficace. Malheureusement, ce n'est pas la technique que pêche-océan a retenue jusqu'à ce jour.
Oui, ça a été demandé, ça, qu'on élimine la zone statique, cette fermeture permanente.
Qui devient un piège à baleines carrément parce que les pêcheurs entourent cette zone-là, qui est la fameuse zone 12, où il y a un fort potentiel de crabes. Et là, en voulant se rapprocher au maximum de cette zone-là qui est fermée, ça devient pratiquement un casier à baleines au lieu d'avoir des casiers à crabes. Donc, ça, je pense qu'il faut que les MPO fassent ses devoirs.
À suivre, donc, la prochaine réglementation, on s'en parlera. Est-ce que ça vous surprend qu'on n'a pas dédommagé jusqu'à maintenant est-ce qu'à la Gaspésie? Quand même des pertes de 300-400 000 pour l'Escale Gaspésie, l'organisme en tant que tel. Et quand même qu'on a mis autant de millions pour une gare intermodale, pour un train touristique, tu sais, pour...
L'industrie des croisières depuis au-delà de 10 ans, effectivement.
C'est 30 peut-être plus, 30 millions et 40 millions. Là. Puis finalement, qu'on laisse finalement aller tranquillement... Sans qu'on... Je ne sais pas.
Ça vous questionne. C'est désolant que Escale Gaspésie, qui est un OSBL, qui vit avec les quatre ports des municipalités, des MRC, qui travaille très fort depuis au-delà de 10 ans pour développer. On est devenu une des principales plaques tournantes des croisières internationales au Québec. Donc, bravo à tous les gens qui ont contribué à ce beau dossier-là, mais avec très peu de moyens. Maintenant, effectivement, ça aurait été intéressant qu'il y ait des indemnités financières de verser. Le problème, c'est qui va vouloir accepter la responsabilité? Est-ce que c'est Pêche-Océan? C'est pas vraiment dans le mandat de Pêche-Océan d'indemniser des organismes de développement. Est-ce que c'est un gouvernement, un palier ou un ministère du gouvernement du Québec qui va indemniser une organisation suite à une décision du fédéral? Chacun se renvoie la balle et je pense que on voit ça comme une situation temporaire, mais dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a rien de plus permanent que la situation temporaire qu'on vit depuis 3 ans.
À suivre, donc Gaëtan. Le logement, pénurie de logement, on a beaucoup parlé de pénurie de main-d'œuvre, mais disons que la pénurie de logement à Gaspé fait jaser beaucoup. Et je regardais dans nos archives, c'est pas la première fois. En 2004, le taux de si on veut, d'inoccupation était de 0,4%, même pas 1%. On parlait de 2016. De 2016 à 2017, le taux d'inoccupation était passé de 5,7 à 1,7. Et on a vu le reste, évidemment, depuis ce temps-là. On est en bas de 1% encore à Gaspé.
C'est pratiquement une situation chronique, hein, quand on regarde ça. C'est intéressant, les chiffres que tu amènes. 2004, je me souviens, j'étais à la direction de la ville à Gaspé. Et effectivement, moi, de souvenir, la période que j'étais à la ville, c'est entre 2001 et 2010, on gravitait autour de... C'était moins de 1%. Hein. Donc, on était parmi les taux de vacation les plus bas du Québec. Et il y a eu une bonne période, 2016, où ça a augmenté... à autour de 4 à 5 %, mais c'est comme l'exception. On peut dire que Gaspé est toujours de façon chronique là, dans une période là, de recherche de logement avec un taux de vacation parmi les plus faibles au Québec. Donc, c'est un problème qui existe depuis un bout. La Ville a adopté quelques lois privées. La Ville vient d'en adopter une présentement. Il y en a déjà eu d'autres dans le passé. Ce qui serait intéressant de regarder, c'est globalement le Grand Gaspé. Parce que oui, on a une pénurie de logements au centre-ville, mais si on regarde dans l'ensemble du Grand Gaspé, c'est sûr que les travailleurs, les gens, il y a une tendance, les personnes âgées, à se rapprocher du centre-ville pour être près des services, de la santé, entre autres. Mais si on regardait globalement, je pense que le taux de vacation du Grand Gaspé est sûrement plus élevé que moins de 1 %. Mais effectivement, là, quand on parle du centre-ville, il y a une rareté, puis c'est un problème qui est devenu chronique. Maintenant, il y a des mesures qui ont été adoptées, la bonne nouvelle, par la ville de Gaspé, le bill privé que le gouvernement du Québec vient d'autoriser.
Est-ce que vraiment ça peut faire une différence, d'après vous, d'après toi, Gaëtan?
Bien, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, je ne suis pas dans le marché de l'immobilier, mais ma crainte, c'est que les coûts de construction sont tellement plus élevés en Gaspésie. On parle de 20 à 30 % plus élevés qu'ailleurs au Québec. Donc, est-ce que les mesures financières versées par la ville vont compenser finalement les coûts plus élevés de construction en Gaspésie et à Gaspé? Juste les terrains. Hein. On a des coûts plus élevés de construction en Gaspésie de 20 à 30 % que la moyenne québécoise. Mais quand on arrive au niveau des terrains à Gaspé, c'est pratiquement le double d'ailleurs en Gaspésie. Donc, un projet qui devrait coûter, par exemple, 100 000 de l'unité à Gaspé va peut-être coûter 150 000 à cause notamment du coût du terrain qui est beaucoup plus élevé, la rareté des terrains, et tu ajoutes à ça le coût de construction plus élevé. Donc, les gens qui investissent dans du logement locatif, c'est pas pour faire une belle cause sociale, faut pas se le cacher, pour faire de l'argent, c'est une question de rentabilité, puis c'est correct, c'est des gens d'affaires, ils sont là pour faire des profits, c'est normal. C'est donc, on va voir là, dans les prochains mois s'il y a des projets qui sont déposés, puis pas rien que déposés et qui sont mis de l'avant.
Parce que le terrain, la ville possède certains terrains, dont celui à côté là, du Carrefour Gaspé, qui est quand même un grand terrain. Alors, est-ce que ça pourrait jouer?
Le terrain du parc, ce qu'on appelle le terrain du parc municipal, ça fait longtemps que la ville se questionne quant à la vocation de ce terrain-là. Moi, je pense qu'il faut être très prudent. C'est un des rares terrains qui reste à la ville de grande qualité, de très grande qualité. Écoute, c'est quand même un immense terrain avec la vue sur le parc Forillon, sur le bord de l'eau. Il va falloir, puis c'est une grande superficie, il va falloir, je pense, que la ville soit très prudente avant d'aller de l'avant dans un projet pour être certain que une fois que ce terrain-là va être utilisé, il n'y en a plus d'autres là, de cette qualité-là. Donc, on a parlé de projets récréo-touristiques, on a parlé de projets de condos de luxe. Il y a beaucoup de discussions sur la table, mais selon moi, c'est pas ce terrain-là qui va servir à de la construction abordable parce que le coût de ce terrain-là est beaucoup trop élevé.
Bon, alors voilà pour ce terrain-là, parce qu'on en parlait souvent, associé au logement.
Mais c'est mon avis, mais c'est la ville qui verra à prendre ses décisions. Hein?
Alors, ce sera à suivre aussi au cours de 2020, parce que là, la Ville va déposer son programme d'aide. Alors, on parle évidemment de différentes mesures fiscales là, pour aider à la construction de logements et l'achat de maisons en maison, donc en région.
Oui, très belle initiative. Dans le dernier bill privé, le fait qu'on va subventionner l'achat de maisons en dehors du périmètre d'urbanisation du centre-ville, dans les secteurs, dans le quartier 6, le quartier 3, ça, c'est excellent. Ça va. En tout cas, c'est une mesure pour revitaliser nos centres villageois, nos localités qui sont un peu plus loin du centre-ville. Bravo.
On fait une pause, Gaétan Lelièvre, et on revient dans un petit moment. On poursuit notre discussion sur les événements qui ont marqué 2019.